collègues, eh bien, on retrouve ensemble l'épître aux Philippiens. Il y a 15 jours, Luciano évoquait au chapitre 2 les versets 1 à 5. Et dans ces versets 1 à 5, Paul avait appelé ses lecteurs à avoir un cœur semblable à celui du Seigneur. Même pensée, mêmes aspirations, même humilité que Jésus. Et ce texte nous disait que, voilà, tout ce que devrait rechercher tout vrai chrétien. L'auteur nous invite aujourd'hui à regarder l'exemple par excellence de l'humilité, de l'amour désintéressé, nous invite à regarder le Christ Jésus lui-même. Ayant évoqué ses pensées, ses aspirations, cette humilité que l'on doit rechercher, l'apôtre ne peut faire autrement que de se lancer dans un exposé doctrinal magistral. C'est un véritable cours de christologie. C'est un des plus beaux textes du Nouveau Testament, voire de l'Écriture. C'est un chant magnifique à la gloire du Christ. Nous voulons le lire ensemble. Donc, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et les versets 6 à 11. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On a l'habitude de dire, et les commentateurs le soulignent, qu'il s'agit ici d'un cantique, et d'un cantique qui aurait été emprunté à l'Église du premier siècle. Il est certain que quand on regarde la structure du passage dans le texte original, cela nous fait penser à un chant. Alors on dira pourquoi pas. Et si oui, le chant qui est là devant nous se compose de deux strophes. La première strophe chante l'humiliation, chante l'abaissement de Jésus, le Fils de Dieu. La deuxième strophe, elle, confesse sa glorification et son exaltation à la droite de Dieu, le Père. Alors, ceux qui font de la théologie, qui sont dans des instituts bibliques ou des facultés, eh bien, ont l'habitude de ce texte. On dit que c'est le fondement biblique d'une doctrine que l'on appelle la doctrine des deux états du Christ. Selon la traduction que vous avez en main, il est affirmé au verset 6 que Jésus était de condition divine. Cela est dans le texte de la semeur, cela est également dans la Tobe et dans plusieurs versions modernes. Et si vous avez une seconde, eh bien, généralement, il est dit que Jésus existait en forme de Dieu. En fait, par ces mots, l'auteur souligne avec soin la pleine et absolue divinité de Jésus-Christ. Il y a dans l'original un mot grec et qui est rendu ici, selon les textes, par forme ou condition. Et ce mot est d'une importance capitale. Il souligne en fait l'essence même du Seigneur. Il souligne la divinité absolue du Fils de Dieu. Cette divinité, d'ailleurs, Jésus l'a revendiquée alors qu'il était sur cette terre. C'est ce qui a mis à plusieurs reprises les chefs religieux de son époque en colère. Ainsi, dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 18, également dans le même évangile au chapitre 10 et au verset 33, il est accusé par ses chefs religieux qui lui disent « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et oui, pour nous, pour l'Écriture, Jésus est Dieu. Et c'est ce que l'apôtre affirme d'une manière absolue à ces chrétiens de Philippe. Plusieurs textes du Nouveau Testament sont avec cette affirmation de la divinité de Jésus-Christ. On pourrait prendre l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 14, ou Colossiens 2, 9, que nous citerons un peu plus loin. Et ces textes nous disent que Christ était pleinement Dieu, était l'égal de Dieu. Mais là, dans ce texte aux Philippiens, il est dit que bien qu'il était pleinement Dieu, il ne considéra pas son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou à laquelle s'accrocher. L'Écriture enseigne donc que le Christ Jésus était et dans les cieux l'égal de Dieu, il était Dieu. Nous croyons qu'il l'était là-haut dans le ciel, à la droite du Père, mais nous croyons aussi que Jésus est resté Dieu depuis Bethléem jusqu'à la croix, et qu'il l'est encore aujourd'hui, qu'il est pleinement de nature divine. Nous croyons que l'Écriture accorde à sa nature humaine, si vous voulez, pour user d'une expression de l'Écriture, pendant les jours de la chair, de la vie du Seigneur, l'Écriture accorde à Jésus tous les attributs divins. Et je rajouterai ce mot, y compris la majesté et la gloire. Certains, en effet, en regardant le texte de ce matin, pense que Christ s'est dépouillé de quelques-uns de ses attributs divins, entre autres de sa majesté et de sa gloire. Pour ma part, je crois, au regard des textes bibliques, que dans sa nature humaine, Jésus a été et resté en possession de tous les attributs, y compris la gloire et la majesté de Dieu. Ainsi, quand nous lisons l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 9, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, en Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'était pas Dieu sur terre, dépouillé de certains éléments essentiels, avec certains éléments essentiels de la divinité absents. Non, le texte biblique nous dit que en lui, en la personne de Jésus, habite corporellement, c'est-à-dire dans son état d'homme pendant son temps sur la terre, toute la plénitude de la divinité. Je crois que les évangiles nous dévoilent cette gloire et cette majesté et qui était en la personne de Jésus. Cela est dévoilé au travers des miracles, quand Jésus marche sur les eaux, quand Jésus prend les pains et les poissons et les multiplie, quand Jésus dit à la tempête « Tais-toi » et elle se tait, quand Jésus pose sa main sur le malade et le malade est guéri. Tous ces textes nous laissent entrevoir qu'il y a dans la personne du Seigneur Jésus, de Jésus, une gloire et une majesté extraordinaires. La transfiguration laisse également entrevoir cette majesté et cette gloire qui appartiennent au Fils de Dieu, au Christ fait homme. Alors on pourrait illustrer cette vérité de plusieurs manières. On a dit qu'on peut être roi sans vivre comme un roi, sans occuper le rang d'un monarque. C'est par exemple le cas d'un roi en exil, ou d'un roi qui renonce un moment à son état. Et je crois que c'est exactement ce qu'a fait Jésus avant de s'incarner. Il existait pleinement en forme de Dieu, il régnait dans le ciel, couvert de majesté et de gloire, au même titre que le Père. Il était égal à Dieu, et lorsqu'il est venu sur terre, il est resté dans cette position de Dieu, dans cette égalité de Dieu, mais il était comme un roi qui a renoncé volontairement à manifester sa divinité, à manifester sa majesté et sa gloire. Oui, je crois que Jésus était parfaitement Dieu au plus profond de son abaissement, mais je crois que Jésus n'a pas fait étalage de sa majesté. Je crois qu'il a renoncé volontairement à son droit de se manifester dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire de Dieu, je crois. et qu'il a volontairement mis de côté toute manifestation, tout éclat. Vous savez que quand un champion revient d'une victoire, eh bien, il brandit ses trophées pour susciter de l'admiration, pour déclencher des applaudissements. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu en brandissant des trophées, en disant « Moi, je suis Dieu, regardez ma majesté, regardez ma gloire. » Jésus ne parade pas avec sa divinité. Il n'est pas venu sur la terre pour cela, et il n'a donc pas usé de ce qu'il était. Je crois que Christ s'est volontairement gardé d'user de la plénitude de la divinité qui était en lui. Il aurait pu user de son pouvoir face aux soldats, un mot, et il y aurait eu des légions d'anges pour le défendre. Il aurait pu user de son pouvoir face aux moqueurs, face à ceux qui lui crachaient au visage, face à ceux qui le frappaient et qui lui ont couvert la tête d'une couronne d'épines. Il aurait pu user de son pouvoir et descendre de la croix. Mais je crois que Christ est mort parce qu'il n'a pas usé de son pouvoir de vie, qu'il n'a pas usé de cette majesté, de cette gloire qui était la sienne, parce qu'il fallait qu'il paie de sa vie pour ta vie, pour ma vie, pour ton salut et mon salut. L'apôtre utilise 5 affirmations pour parler du Christ qui s'est fait homme. La première, il s'est dépouillé lui-même. La deuxième, il a pris la condition d'un esclave. La troisième, il est devenu semblable aux hommes. La quatrième, il était vrai homme. Et la cinquième, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, c'est sur terre tout le contraire de ce qu'il était au ciel. Il a pris, nous dit le texte biblique, la forme d'un serviteur alors même qu'il possédait la forme de Dieu. C'est ce que nous avons l'habitude d'appeler l'état d'abaissement ou l'état d'humiliation. Le texte biblique nous dit « Jésus a pris la condition d'un esclave ». Il est venu, nous dit Jésus, non pas pour être servi, mais pour servir. Et quand nous regardons toutes les étapes de sa vie, tous les actes de sa vie, nous découvrons qu'il s'est comporté constamment comme un serviteur, jusqu'à prendre le tablier de l'esclave et laver les pieds de ses disciples. Il a été humble, il a été obéissant comme l'esclave, et cela jusqu'à la mort, et pas n'importe laquelle, la mort de la croix, le supplice atroce, le supplice réservé aux esclaves. Rejeté par son propre peuple, il n'a fait pourtant qu'aimer et servir pendant tout son séjour sur la terre. Le texte biblique nous dit aussi que Jésus est devenu semblable aux hommes. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 14, il nous est dit que en fait Jésus était Dieu fait chair. Cela signifie qu'il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En fait, quand on regarde Jésus, il s'est comporté non comme le Créateur du ciel et de la terre, mais il s'est comporté comme une créature. Lui, qui était ineffablement riche, s'est fait pauvre pour nous. Lui, qui est le Dieu puissant, est apparu comme une faible plante. Lui, qui est le Créateur et le Seigneur de toutes choses, s'est soumis à l'homme. Lui qui était Dieu et qui l'est toujours resté, avait les allures et les apparences d'un homme. Il est né d'une femme, il est né dans une simple étable, il a grandi comme tous les enfants, il a mangé et bu, il a pleuré et il a gémi. Si on accepte l'autorité majestueuse avec laquelle il enseignait, si on accepte ses miracles et la transfiguration, Jésus avait tout de l'homme. Rien ne le distinguait de ses semblables, si ce n'est qu'il est né sans péché et qu'il n'en a jamais commis. Alors il faut s'arrêter un tout petit instant parce que certains ont cru que les mots en devenant semblables aux hommes signifient qu'il n'était humain qu'en apparence. Mais quand nous regardons le texte biblique, il est évident que tout nous dit qu'il est à la fois parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Et quand on regarde le texte biblique, il est dit d'une manière claire et forte qu'il a pris la forme de l'homme et qu'il était donc avec ce quelque chose impossible à comprendre peut-être, avec notre logique d'homme, qu'il avait cette double personne, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Je crois qu'il n'a cessé d'être Dieu en venant sur terre et qu'il n'a cessé d'être homme en allant au ciel. Que c'est le Dieu homme qui a aussi été élevé à la droite de Dieu et qui est là-haut dans sa présence. L'homme-Dieu, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Le verset 8 nous dit « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Oui, faussement accusé, condamné comme blasphémateur, objet de la haine et de la risée de tous, Jésus a achevé sa carrière sur une croix entre deux brigands. Et pourtant, il était dans son agonie même le prince de la vie. Et je crois que c'est son humilité et son renoncement qui l'ont amené jusque-là. Le texte biblique nous dit « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. » La mort sur la croix. L'obéissance. L'obéissance est une des caractéristiques du Seigneur Jésus, est une des qualités du Christ. Et le texte biblique est là à nous dire que la mort même sur la croix est un acte d'obéissance de la part du Seigneur. Elle est l'expiation parfaite et qui satisfait la justice de Dieu. En fait, le texte est en train de nous dire que cette obéissance est notre justice, la seule qui vaut devant Dieu, sur laquelle se fonde notre foi, ou devrait se fonder notre foi, la seule que Dieu impute à la foi. Christ, étant sans péché, a porté la punition du péché et est devenu victime pour nous. Voilà donc pour l'obéissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi, nous dit Paul, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi fait référence à ces cinq points évoqués, réalisés pleinement dans la personne du Christ Jésus. Dieu, le Père, est pleinement satisfait. Pleinement satisfait par l'abaissement, la vie, la mort de Jésus. Alors, il l'a souverainement élevé, c'est-à-dire qu'il l'a placé sur le trône de la majesté, à la droite du Père. Dieu a exalté et honoré celui que les hommes avaient méprisé et rejeté. Et dans ce texte, il est sous-entendu que Dieu a tout réactivé dans la vie du Christ Jésus. Dignité, majesté, gloire. C'est ce qu'affirme l'Écriture au travers d'un très beau texte de l'Épître aux Éphésiens que je voudrais vous lire. Dieu a fait asseoir le Seigneur Jésus à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom et qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et tout cela devrait être un immense réconfort pour nous. Et le texte de terminer avec ces mots, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Dans les cieux tout d'abord, on y voit les anges, on y voit les chrétiens décédés et qui sont dans la présence du Christ. Ils plient le genou et confessent que Jésus est Seigneur. Sur la terre, ce sont bien sûr les hommes, aujourd'hui les croyants, vous et moi, et qui plient le genou et confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ceux qui sont sur la terre, ce sont tous les hommes, et qui un jour, de gré ou de force, vont devoir plier le genou. Les indifférents, les moqueurs, les blasphémateurs. Il ne faut pas croire, on ne peut pas vivre sa vie sans arriver un jour à cette étape où la Bible nous dit que tout homme, que toute femme, jeune ou moins jeune, devra reconnaître que Christ est Seigneur. Mais pour eux, ce sera trop tard. Et puis il est dit que tous ceux qui sont sous terre devront également plier le genou et confesser le Christ. Je crois que c'est ainsi que l'Écriture évoque d'une part les démons et d'autre part les morts sans Christ, sans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Eux aussi devront vivre un face-à-face avec le Seigneur et ils vont plier le genou et confesser Christ le Seigneur. Oui, ce texte nous dit l'abaissement de Jésus, nous dit son humiliation, nous dit son obéissance jusqu'à la mort. Et cela devrait susciter notre admiration, devrait susciter notre adoration, devrait susciter notre engagement. Quand on considère que celui qui est Dieu, pleinement Dieu et qui est resté pleinement Dieu, a été dans cette forme d'homme, comme toi et moi, comme un esclave, et qu'il pouvait, avec un mot, avec un geste, arrêter ce qui était en train de se passer. Mais non, il a été jusqu'au bout. Il a payé le prix à la croix, simplement parce qu'il t'aimait et qu'il m'aimait et qu'il voulait que tu deviennes et que je devienne enfant de Dieu. Oui, il a fait cela. Mais ce Jésus est aujourd'hui à la droite du Père et c'est devant lui que nous voulons nous aussi plier le genou et adorer.